Point Afrique.
Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des reportages et interviews de nos correspondants et reporters qui ont tendu le micro à la jeunesse et aux femmes africaines afin de nous éclairer sur leurs aspirations, leurs actions et leurs activités, généralement parsemées d'embûches, mais également parfois encouragées et soutenues. Mais avant de partir à la découverte de celles et ceux qui remodèlent le continent africain à leur idée, une petite revue de presse sur l'enfance dans le monde.
C'est dans la presse.
Ameya avait 10 ans quand elle a été mariée à un homme torturé à mort par son mari. Son corps a été retrouvé le 29 juillet dans un village de la province de Bagdis en Afghanistan. La petite fille était victime de la pratique du badal, un mariage avec échange de filles. Ces unions forcées théoriquement interdites se pratiquent toujours dans certaines régions. Après avoir torturé puis étranglé Ameya, l'homme s'est enfui dans une zone contrôlée par les talibans. Le père de l'enfant a été arrêté pour interrogatoire. Ameya s'était auparavant enfuie pour trouver refuge chez ses parents, mais son père l'avait ramenée chez son mari. Des centaines d'autres enfants sont victimes de trafic d'êtres humains au Gabon. Ils arrivent sur des embarcations de fortune depuis l'Afrique de l'Ouest. Une petite nounou rapporterait jusqu'à 150 000 francs CFA par mois aux trafiquants, rapporte l'UNICEF. On constate des tentatives de corruption sur les juges, selon un magistrat, affirmant que certains juges d'instruction feraient de la lutte contre le trafic d'enfants un fonds de commerce. Il arrive aussi que la justice considère certaines pratiques comme culturelles, oubliant qu'il s'agit d'un acte criminel, rappelle-t-il. Le phénomène a toutefois diminué suite à la loi de 2004 criminalisant la traite des enfants. Mais le principal problème reste que le trafic d'enfants revêt des formes cachées avec les employés à domicile qui sont souvent des petites filles traitées comme de véritables esclaves. Début août, 11 enfants de 1 à 15 ans ont été délivrés d'un repère délabré tenu par des hommes armés à Amalia, dans l'état américain du Nouveau-Mexique. Deux hommes, Siraj Waj et Lucas Morten, ont été arrêtés après l'intervention de la police. Les enfants ont été trouvés sans nourriture et eau fraîche et sans chaussures, sans hygiène personnelle et vêtus essentiellement de chiffons sales. Trois femmes suspectées d'être leur mère ont aussi été interpellés pour être interrogés. Voilà, ce n'était que trois petites nouvelles parmi un grand nombre d'autres qui nous rappellent combien la Convention relative aux droits de l'enfant est essentielle dans un monde où l'enfance a vraiment besoin de plus de protection pour jouir pleinement de ses droits fondamentaux comme tout un chacun. Les droits de l'enfance, une affaire à suivre de très près.
Parole de femme.
Dans le cadre de l'AWEP, le programme d'entrepreneuriat des femmes africaines, initié par le département d'État américain, Arzuma Compaoré est allé à la rencontre de plusieurs participantes auxquelles il a donné la parole. Je vous propose de découvrir deux d'entre elles, à commencer par Janine Akosiwa Degbe, directrice de Jideka, une entreprise qui fabrique des écharpes et foulards en coton tissés à la main. Elle est également la directrice directrice de communication de la branche togolaise du programme d'entrepreneuriat des femmes africaines. Voici donc son portrait signé Arzuma Compaoré.
Je suis Janine Akosiwa Degbe. J'ai une entreprise sociale qui travaille avec deux groupes. Un groupe de femmes qui tissent les tissus. Tout ça, c'est tissé à la main. C'est du coton tissé à la main. Et un groupe de jeunes filles sourdes muettes qui confectionnent tous nos produits. Non seulement on se fait plaisir, mais on contribue en achetant nos produits à l'autonomisation des jeunes filles malentendantes du Togo, tout simplement. Ce que les États-Unis à travers ce programme nous offrent aujourd'hui, ça nous ouvre aussi les yeux à pouvoir commercialiser entre nous dans la zone régionale africaine, ce que nous ne faisions pas. C'est vrai que lorsque vous travaillez, vous tendez à gagner de l'argent et à avancer financièrement dans la vie. Mais ce qui m'importe le plus, c'est le côté social. Quand je vois tous ces sourires derrière moi, quand je vois ces jeunes filles qui ne savaient pas comment vivre de leur métier parce qu'elles sont malentendantes. Et aujourd'hui, elles ont un travail. Quand je vois ce sourire, ça me rend plus que heureuse. En tant que femme, je deviens leader dans ma communauté. Tout simplement, j'apporte un plus aux femmes et aux jeunes filles. Nous devenons des mentors en quelque sorte.
Et après ce portrait de la Togolaise Janine Akosiwa Degbe, une des 22 femmes ayant séjourné quelque temps aux États-Unis dans le cadre du programme d'entrepreneuriat des femmes africaines, voici celui de l'Ivoirienne Annick Natacha Kouadio, responsable du réseau local des distributeurs de riz dans les régions de Gbeke, Ambol et Ifou, où elle coordonne 400 coopératives employant des femmes et des jeunes des zones rurales en Côte d'Ivoire. Pour elle, c'est à l'université que tout a commencé, a-t-elle confié à Arzuma Compaoré.
Je suis Kouadio Annick Natacha, je viens de la Côte d'Ivoire. Comment je suis arrivée là? J'ai fait une maîtrise en sciences économiques. Et déjà à l'université, j'avais pour rêve de devenir entrepreneur. Avec, disons, $200, j'ai commencé à faire le commerce international. Je partais au Ghana prendre des marchandises. Je me suis rendu compte que l'agriculture était une vraie opportunité. Déjà le riz, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est plus de 2 millions de tonnes de riz qui doit être distribué. Et je me suis dit, en prenant de la chaîne, depuis la production, la transformation et la commercialisation, ça pourrait véritablement créer beaucoup d'emplois. Une chose que j'ai découverte, c'est qu'il y a aussi des petites entreprises aux États-Unis. Et à ces petites entreprises, l'État américain et d'autres structures, la société civile surtout, proposent des solutions pour aider ces entreprises à se développer. Donc je me suis rendu compte que nous ne sommes pas seuls. De fois qu'on voit l'Amérique, on s'est dit qu'on est seuls, les autres sont très en avance. Mais je me rends compte qu'on peut encore aller de l'avant. Vraiment, ça me donne de la motivation. Cette entreprise m'a permis d'avoir confiance en moi. Parce qu'au départ, on s'est dit qu'il fallait d'abord travailler pour les autres. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais capable de créer quelque chose et aussi offrir des emplois. Parce que grâce à mon entreprise, j'emploie une dizaine de personnes qui travaillent. J'ai même des stagiaires. Et puis, on travaille, on accompagne des femmes. Elles font la production de manioc. Nous, en vendant leurs produits, ça leur permet de produire plus. Donc, ces femmes ajoutent des plus-values à leur production. Et c'est vraiment une satisfaction pour moi. Au point de vue financier, ça me permet d'être indépendante. Pouvoir me réaliser, assurer l'avenir de mes enfants, mais aussi créer de l'emploi. Pour moi, c'est important. Je me dis que la vie ne se limite pas à acheter une maison, acheter une voiture, mais il faut pouvoir impacter sa génération. Nous soutenons beaucoup nos familles. C'est une priorité pour nous. Soutenir papa, maman, les autres frères. On se préoccupe de l'avenir de nos petits frères, de tous les membres de la famille. Donc, pour moi, réussir, c'est permettre la réussite de ma famille et de toute ma société.
C'était Annick Natacha Kouadio, coordonnatrice de distributeurs de riz en Côte d'Ivoire, lors d'un voyage de travail et d'échange à Washington dans le cadre du programme d'entrepreneuriat des femmes africaines. « De nombreux observateurs s'accordent à dire que le plus grand atout de l'Afrique est sa jeunesse. Une jeunesse très prometteuse dans laquelle il faut investir. Rappelons que 60% des chômeurs en Afrique sont des jeunes et que les plus touchés par la crise de l'emploi sont les jeunes femmes. Aussi, les statistiques ne tiennent pas compte des emplois précaires ni du sous-emploi dans le secteur informel, affirme l'Institut Brookings, estimant à plus de 70% les jeunes des deux Congos, du Mali, du Rwanda et du Sénégal qui sont à leur propre compte ou contribuent au travail familial.
Si jeunesse pouvait.
La démocratie africaine connaît ces dernières années une effervescence animée par les jeunes à travers de grandes mobilisations citoyennes. Ces mouvements ont un impact fort, notamment au Sénégal, au Burkina Faso ou en République démocratique du Congo. Récemment réunis à Dakar, ces acteurs veulent unir leurs forces pour avoir un plus grand impact sur l'évolution des sociétés africaines. Le correspondant de VOA Afrique au Sénégal, Sédina Abagay, a rencontré quelques-uns de ces jeunes engagés à la recherche d'un avenir meilleur sur le continent.
Plusieurs dizaines de mouvements citoyens se sont mobilisés pour lancer la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen. À travers cette initiative, ils veulent s'éloigner des rencontres conventionnelles et créer leur propre espace de réflexion. Fadel Baro du mouvement Yanamar estime que cela permettra de mieux prendre en compte les préoccupations des jeunesses africaines.
L'idée de cette Université populaire de l'engagement citoyen, c'est pour une fois les jeunesses africaines créent leur propre agenda. Ils ne se retrouvent pas parce qu'ils sont invités ou parce qu'ils sont regroupés pour qu'ils discutent de problématiques qui ne les concernent pas, mais ils sont regroupés autour de leurs propres problématiques, de leur propre agenda et envisagent ensemble les mêmes solutions. Parce que les jeunesses africaines, c'est aussi la particularité des mouvements citoyens, ils ont conscience qu'ils ont le même destin et ils ont ce même destin, ils le construisent ensemble.
Cette première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen permettra également de donner des cours sur les mouvements citoyens, l'histoire et la sociologie des luttes. Ceci pour aider les acteurs à mieux s'organiser et construire des mouvements pérennes. Fred Boma du mouvement Congolais Lucha est estiment que cette rencontre leur apporte un plus dans leur lutte pour la démocratie.
C'est une occasion en or de rencontrer des dizaines d'activistes qui ont de sacrées expériences, de rencontrer des artistes qui ont aussi une expérience tout autre et de rencontrer des scientifiques qui ont une connaissance dans ce que nous faisons. Je pense que c'est un grand bagage qu'on fait. C'est aussi un réseau qu'on construit entre différents activistes. Un réseau qui peut être mis à profit lorsqu'on a besoin de coaliser nos forces, lorsqu'on a besoin de faire entendre notre voix au-delà de nos frontières.
Plusieurs pays seront au centre des débats et parmi eux figure Madagascar, dont le processus démocratique est en péril, d'après sa représentante à ce forum. Mbolosiana étale les problèmes démocratiques qui secouent son pays et espère que cette rencontre de Dakar permettra aux mouvements sociaux d'être mieux affûtés.
Les problématiques face à la loi électorale, le président de la République qui fait déjà campagne depuis très longtemps, et également les autres partis politiques qui soutiennent les anciens candidats, les anciens putschistes, les anciens dictateurs, qui reviennent encore sur la table. Et qui font que cette période préélectorale est très tendue et même la loi électorale qui devait bien régir les élections fait beaucoup débat.
Au-delà des revendications institutionnelles, les mouvements sociaux veulent rassembler les énergies des citoyens autour des questions sociales, environnementales et culturelles. Une forme de lutte qu'ils comptent utiliser comme une alternative citoyenne face aux extrémismes meurtriers et à l'immigration clandestine. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Et en République du Congo, de nombreux jeunes utilisent le slam, genre littéraire similaire à la poésie, pour dénoncer des injustices et alerter les décideurs sur des questions de société cruciales. Arsène Séverin est allé à leur rencontre à Brazzaville.
Sache qu'ici, les choses vont de mal en pis, de méritocratie à empire, et c'est interdit de le dire, prohibé de l'écrire.
C'est depuis les événements liés en 2015 au changement de la constitution que ces slams sont de plus en plus déclamés au Congo. Plus de rythme, de textes engagés et intelligents, les slams sont devenus la nouvelle arme de communication pour une bonne partie de la jeunesse congolaise. Inscrit en master 2 d'économie, le slameur Paterne Bouangakaba, connu sous le prénom de Black Panther, a écrit une lettre au recteur de l'université Marien Ngouabi, lui demandant d'humaniser les conditions d'études dans cet établissement public.
Récemment, j'étais à la grande bibliothèque universitaire. Il y a un étudiant qui m'a dit que l'être au recteur était la sonnerie de son téléphone. Donc ça m'a beaucoup touché. Donc ça montre à quel point il a été justement marqué par ce texte-là, parce que ce sont les réalités qu'il traverse et les réalités qu'il vit au quotidien à l'université.
Plus direct et allant puiser son inspiration dans l'écosystème politique, Gershom Gobouang, dit Guerre de mots, n'hésite pas à aller ressusciter l'affaire des disparus du Beach. Pour cet artiste, la seule façon de montrer qu'il n'y a pas eu de disparus, c'est de les présenter à leurs parents.
Autour d'elle, les musiques se kiffent et se critiquent, même les discours de « Oh, bâtisseur infatigable ». Tu veux t'éterniser au pouvoir et nous, on est pour l'alternance, donc viens qu'on boive une bière et qu'on en parle. Que la seule manière de prouver qu'il n'y a pas eu de disparus du Beach, c'est de les voir apparaître. Lazare, sort de ce fleuve.
Maruska Mukenge est l'étoile montante du slam congolais. Fille d'une vingtaine d'années environ, elle voyage de capitale en Afrique pour montrer à la jeunesse cette nouvelle forme d'expression.
Je ne me prends pas comme étant un opposant du pouvoir en place ou une personne qui bosse avec le pouvoir en place. Moi, je suis artiste et je suis libre de dire ce que je pense réellement. Donc, je n'ai pas à m'emprisonner dans une certaine idéologie politique.
Le vice-coordonnateur du mouvement, le ras-le-bol, Charlène Kinoani, estime que ces jeunes n'ont de différent avec eux que la scène des déclamations de leur slam.
Ces jeunes-là, pour nous, ce sont des ras-le-bolistes. D'ailleurs, je vais signifier que le mouvement ras-le-bol est créé par les grands slameurs de ce pays. La révolution aujourd'hui, avec le stylo, le papier, ça passe.
Pour le critique littéraire Florent Soninzaou, président du PEN Centre Congo-Brazzaville, ces jeunes artistes, qu'on ne peut pas facilement classer dans les genres littéraires, s'inspirent des faits de la société et finissent bien souvent dans les mouvements de contestation.
L'écrivain ne vient pas de notre planète. La première source d'inspiration du slameur, c'est la société dans laquelle il vit. Et puis, quand il déclame, il le déclame avec tellement de violence que cette violence-là s'explique, justifie même l'engagement.
Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Les pays d'Afrique subsaharienne peuvent-ils tenir tête aux grandes firmes internationales qui brassent un marché de plusieurs milliards de dollars? Malgré leur dépendance des vêtements étrangers, des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun et la RDC font revivre l'industrie locale du coton, tandis que d'autres comme le Rwanda et l'Ouganda ont interdit l'importation de vêtements de seconde main. Est-ce un début d'autonomisation économique du continent dans le secteur textile? C'est à souhaiter, mais seul l'avenir nous le dira.
Entre parenthèses.
En Guinée, la filière de la friperie s'est fortement développée depuis quelques années. Devant la très faible présence de l'industrie du textile local, les vêtements d'occasion importés d'Europe, d'Asie et des Amériques ont vite conquis les consommateurs et restent les plus utilisés par la majorité des Guinéens dans la capitale. Seulement voilà, le succès de la friperie n'est pas sans conséquence sur les productions locales. Les couturiers accusent notamment la vente des vêtements de seconde main importés d'être la cause de la faible demande qu'ils enregistrent. Zakaria Camara nous en dit plus dans son reportage.
À Madina, le plus grand marché de Conakry, le commerce de vieux vêtements reste l'une des activités qui attire plus de visiteurs. Certains acheteurs expliquent leur choix par le prix à la bourse des plus pauvres. Et pour d'autres, c'est une occasion de se mettre à la mode internationale.
La friperie, quand tu portes, tu ne trouves jamais le modèle.
Si tu as 50, tu peux trouver plus de 10 ou 5 complets comme ça. Je l'achète pour un plaisir, le mettre pour sortir.
Namori a commencé la vente des friperies après l'université. Il n'a connu que cette activité. Détaillant au départ, ce jeune est devenu l'un des importateurs de vêtements d'occasion.
À l'époque, on est venu tirer les rails et tout a commencé à partir de là-bas, quoi. On est resté dans ça, là, dans les détails. Finalement, on s'est débrouillé, on s'est accroché aux importateurs. Finalement aussi, j'ai adhéré au groupe d'importateurs.
Dans son magasin, seulement quelques ballots de friperies attendent des acheteurs qui viennent de partout en Guinée. Mais si ce commerce est florissant, les détaillants n'ont aucun contrôle sur la qualité et la quantité de leurs approvisionnements. Des facteurs qui dépendent des cycles de consommation des pays de départ. C'est Kusuma, détaillant.
Deux fois, ils envoient des bonnes qualités. Mais deux fois, quand tu achètes des balles, ça trouve que la qualité n'est pas bonne. Et puis tu peux partir chercher des friperies pour femmes, des vêtements pour femmes. Tu demandes. Et quand tu casses la balle, ça trouverait que tu vas voir pour les hommes.
La friperie permet aux plus pauvres de s'habiller à moindre frais. Mais elle a aussi favorisé la diffusion des valeurs occidentales. La Guinée manque de véritable industrie du textile local et les couturiers et autres semblent impuissants devant l'expansion du vêtement d'occasion importé. Alphao, styliste.
Il faut que l'Afrique enrichisse l'Afrique. Il faut que la Guinée enrichisse la Guinée. Au lieu d'aller acheter de la friperie, il est temps maintenant que nous commençons à acheter nos propres produits et à vendre nos propres produits ailleurs. Il est temps que nous pensions à créer de l'emploi. Et la création de l'emploi, ce serait au moins de concentrer 70% de nos vêtements par des vêtements qui viennent de chez les couturiers, de chez les stylistes ou les tailleurs. C'est quelque chose qui est très intéressant et c'est une chose qui peut aider beaucoup l'Afrique, surtout la Guinée. Parce que sans ça, les jeunes stylistes ne vont pas vivre.
Les clients ne se bousculent pas à la porte des ateliers de couture. Face à la faible demande, Maître Ibro, styliste, propose une solution.
Si à la maîtrise de ton travail, c'est ça que ça va marcher. Surtout les pan-africains que nous, on travaille. Parce qu'on ne peut pas avoir les pan-africains en friperie. Hein.
La filière de la friperie en Guinée n'est pas seulement une activité de gros importateurs ou vendeurs sur les marchés. Il y a aussi ceux qui raccommodent, lavent, puis repassent les vêtements d'occasion importés. Au marché Madina, il n'est pas rare de rencontrer des jeunes sortis des universités guinéennes devenus vendeurs des friperies. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Voici à la fin de l'émission Le Monde au Féminin. Merci à Fred Ner, Kayemit et Wagner Robert à la production. LMF, c'est aussi des articles, des vidéos, des reportages, interviews que vous pouvez retrouver sur notre site internet voafrique.com. Vous cliquez sur Radio dans la bande menu. Ensuite, vous cliquez sur Le Monde au Féminin et voilà, vous y êtes. Très chers auditeurs, très chères auditrices, un grand merci pour nous avoir suivis et à très très bientôt. Au revoir.
Arrête.